Je venais de vous citer une parole de Matthieu, chapitre 7, du verset 15 à 18, ainsi. Tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Cette fameuse question des fruits. Quels sont ces fruits qui nous permettraient donc d'identifier l'action de l'Esprit-Saint ou l'action d'un autre esprit, du malin ou même de la chair? On peut signaler deux ordres de fruits, les fruits extérieurs et les fruits intérieurs. Pour mentionner les fruits extérieurs, nous nous contenterons de trois qui sont faciles à identifier, à reconnaître. Le premier signe pourrait être appelé tout simplement la conformité à la révélation de l'Écriture. La personne qui se prétend menée, conduite par l'Esprit-Saint, et qui nie en même temps la divinité ou l'humanité de Jésus, notre Seigneur, qui refuse la résurrection sous prétexte que la réincarnation lui suffit, est clairement en contradiction flagrante avec l'Écriture qui est inspirée par l'Esprit. L'Esprit Saint ne saurait se contredire. Le second signe extérieur rejoint le premier, et c'est la conformité avec l'enseignement de l'Église. Ce que l'Église nous enseigne. Il ne s'agit pas ici de questions disciplinaires, mais de l'enseignement de l'Église en matière de foi et de morale. C'est du Christ Jésus que l'Église a reçu la mission d'enseigner, et dans ce domaine, l'Église jouit de l'assistance spéciale du Saint-Esprit. Assistance qui prend le nom d'infaillibilité. Une révélation qui irait à l'encontre de ce grand enseignement de l'Église, par exemple quelqu'un qui prophétiserait en assemblée ou qui donnerait un enseignement, mais qui irait à l'encontre de ce que l'Église enseigne, ne viendrait certainement pas de l'Esprit-Saint. Puisque on dirait que l'Esprit se contredit lui-même, étant donné qu'il est l'âme de l'Église. Et c'est inacceptable. Un troisième signe extérieur serait ce qu'on pourrait appeler le devoir d'État. Par exemple, la mère de famille, mariée depuis 10 ans, qui a un mari et des enfants, et qui vient voir son confesseur pour lui dire que le Saint-Esprit lui indique qu'elle a en assez fait pour son mari et ses enfants, et qu'elle doit maintenant les laisser pour se consacrer à l'annonce de l'Évangile sur les chemins du monde. Ben, peut-être qu'on retourne doucement et fermement à la maison, car une telle inspiration ne vient pas de l'Esprit-Saint. Le Seigneur qui est fidèle ne l'appelle pas en dehors du sacrement du mariage, qu'elle a contractée et les obligations qui en découlent. Ces trois signes extérieurs, facilement observables, peuvent être d'un grand secours dans une première étape de discernement à opérer avec une personne ou un groupe. Ces signes ne sont pourtant pas suffisants. Il peut arriver en effet que tout soit parfaitement normal et qu'il faille creuser davantage. Interviennent alors des signes que l'on appelle les signes intérieurs. Au cours des siècles, tous les auteurs qui ont traité du discernement des esprits ont commenté le fameux texte de saint Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 24, où l'apôtre expose quels sont les fruits ou les signes par lesquels on reconnaît ou discerne l'action du Saint-Esprit. Relisons d'abord ce texte. Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Quelques versets auparavant, Galates 5, versets 19 et 21, parle de la chair. Saint Paul avait dit quels étaient les fruits du malin. Or, on sait bien tout ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et autres choses semblables. C'est pourquoi saint Paul disait « Laissez-vous mener par l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. » Car la chair convoite contre l'Esprit et l'Esprit contre la chair. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous enviant mutuellement. D'où cette fameuse importance de pratiquer la charité et de l'exercer. C'est pourquoi aussi je vous rappelais que le Seigneur avait dit « Si tu veux voir clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence par enlever d'abord la poutre qui est dans ton œil à toi. » C'est toute la question de la purification du cœur. Ce don de discerner, le don de discernement, réside dans cette lumière intérieure, à nous-mêmes, au-dedans de nous. Cette illumination subite de l'intelligence que nous recevons et qui nous permet de discerner. Dans le discernement ordinaire, parce que vous savez, saint Paul nous dit lorsque vous êtes réunis en assemblée, deux ou trois peuvent prophétiser et que les autres discernent, les autres jugent. Donc, on appelle le discernement ordinaire cette lumière qui se fait progressivement et graduellement au fur et à mesure qu'on voit plus clair à partir des éléments divers qui sont soumis au discernement. Et cela peut arriver en assemblée, lorsqu'on entend une parole prophétique, par exemple. Normalement, c'est le don de discerner qui va intervenir et non pas le discernement ordinaire. Alors, ce discernement qui est le don nous pourrions comparer ce don à la lumière intérieure, cette lumière subite qui se produit. Dans le charisme du discernement, nous disons que c'est une lumière subite où il n'y a pas de proposition de l'intelligence entre ce que dit la personne et ce que saisit subitement la personne qui discerne. Quelqu'un prophétise et, par exemple, les gens dans l'assemblée ou l'animateur ont une lumière qui se présente à leur cœur, subitement, sans que l'intelligence intervienne dans le sens suivant ou qu'elle pèse le pour et le contre. C'est une illumination qui vient de l'Esprit-Saint et qui est donnée. C'est ce que l'on appelle une connaissance infuse ou une connaissance qui est donnée par opposition à une connaissance qui est acquise. Cette connaissance acquise, c'est l'expérience de tous les jours. Cette connaissance du don de l'Esprit-Saint ne passe pas par les sens, comme pour toutes les autres connaissances que nous possédons. Par exemple, pour apprendre son français, il nous faut passer à la fois par un professeur avec la grammaire et les exercices et tout cela. Ça, c'est ce qu'on appelle une connaissance acquise. Mais le don de discerner ne passe pas par les sens, par le sens intérieur, cependant. Mais cette connaissance est infusée directement par l'Esprit-Saint dans l'intelligence. Cette illumination ou cette connaissance infuse porte sur un point précis. Lorsque cela se produit, l'origine et l'orientation divine ou non de ce qui se passe dans une personne ou dans un groupe ou dans l'assemblée. Sans analyse, on sait immédiatement si une chose vient de Dieu ou non, si l'orientation conduit à Dieu ou non. Cela est bien important. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il faut prier pour recevoir ce don. Il ne s'exerce pas en tout temps, en tout lieu et en tout moment, mais il s'exerce selon le bon vouloir de Dieu. C'est pourquoi il faut être toujours présent et attentif à ce que l'Esprit nous demande. Cette connaissance infuse s'accompagne normalement d'un deuxième élément extrêmement important, la certitude. Il ne s'agit pas de cette certitude qu'on peut avoir devant un cas très clair. Vous savez, on voit quelqu'un, on voit la personne agir, on dit, on voit bien qu'elle s'en va, elle a décidé de s'en aller. Ça, c'est clair, elle manifeste, comme on dit, elle secoue les pieds et elle s'en va. Bon, non, c'est pas ça. C'est une certitude qui est absolue. On n'a pas besoin de signes extérieurs pour savoir que c'est certain. C'est une évidence intérieure dont on ne peut douter d'aucune façon. Alors, quel est le charisme du discernement? Le charisme du discernement, on dit que c'est une connaissance que le Saint-Esprit infuse au cœur et à l'intelligence de la personne. Cette lumière éclaire tellement l'intelligence que la volonté ne peut pas douter de l'origine et de la finalité divine ou non des pensées, des attraits, des expériences ou des actions d'une personne ou d'un groupe ou d'une assemblée. Nous disons que cette forme de discernement est un charisme, parce qu'il est donné gratuitement par Dieu à quelques personnes, et non pas à tout le monde. Pour vous faire comprendre, quand on dit que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est que quand je vous ai parlé du corps, les membres ont chacun une fonction. Saint Paul dit, il y a diversité de dons spirituels, diversité de ministères. Les dons du Saint-Esprit qui se font connaître au dehors sont donnés pour l'utilité de l'Église. Et là, Saint Paul va dire, l'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler de Dieu dans une haute sagesse. Un autre reçoit du même esprit le don de parler aux hommes avec science. Un autre reçoit le don de la foi par le même esprit. Un autre reçoit du même esprit la grâce de guérir les maladies, de guérir les malades. Un autre le don de faire des miracles. Un autre le don de prophétie. Un autre le don du discernement des esprits. Un autre le don de parler diverses langues. Un autre le don de l'interpréter. Or, c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons selon qu'il lui plaît, selon que le Seigneur a un plan sur les personnes. Diverses espèces de grâces que la divine providence donne aux hommes. Il veut se servir d'instruments par les hommes pour appeler quelques-uns à la foi et les mettre dans la voie du salut. Mais le discernement des esprits est au-dessus de toute autre grâce exprimée dans le passage de l'apôtre que nous venons de rapporter. C'est le besoin de l'Église. Alors, dans le charisme du discernement, on dit que c'est un charisme qui est donné gratuitement à quelques personnes. Cependant, en assemblée, tous sont invités à discerner. Mais tous ne reçoivent pas cette forme de discernement qu'on appelle le discernement charismatique. Dans le charisme du discernement, la connaissance est infuse. Elle est donnée directement, immédiate, instantanée. Et c'est pourquoi nous parlons d'une lumière intérieure. Dans le discernement ordinaire, la connaissance est acquise et progressive. On appelle cela le discernement classique. On peut parvenir à une certitude morale qui laisse toujours place à un doute, car on peut se demander si le discernement a été bien fait et si on avait tous les éléments. Quand il s'agit du charisme du discernement, le doute n'a plus de place, ni même la possibilité de douter, car la connaissance qui est donnée vient de Dieu lui-même, qui communique sa propre lumière par une révélation intérieure qu'il fait à qui il veut. C'est bien important d'être attentif en assemblée à ce discernement. Et il peut arriver qu'on ait un certain doute en assemblée et que personne n'a parlé, pourvu que cela corresponde à l'enseignement de l'Église et à la parole, il n'y a pas de problème. C'est quand arrive une fausseté qu'il faut que l'animateur intervienne et qu'il aura la grâce de la lumière intérieure pour intervenir. Ça pourra lui coûter cependant, parce que l'Esprit-Saint, il nous laisse ce qu'on appelle la liberté de correspondre à la grâce. Dans le charisme du discernement, il arrive, parce que la connaissance est infuse et immédiate, que on décrive cette forme de discernement comme un instinct surnaturel. par lequel on perçoit instinctivement ce qui se passe, ce qu'on entend. Lorsque je vous ai parlé, par exemple, on entend une parole, elle arrive à nos oreilles et elle tombe dans notre cœur. On peut appeler cela une douce parole qui tombe dans le lac de notre cœur et qui produit la paix et la joie à l'âme. On a un signe que c'est une parole de l'esprit. Mais lorsque cette parole qui nous arrive aux oreilles et qui tombe dans le lac de notre cœur et qui produit un trouble, ce qu'on appelle un floc, et qu'on voit les rayons sur l'eau produire vraiment ce choc, une dureté, la dureté de la roche qui tombe, il faut être certainement sur ses gardes et regarder comme il faut, et au besoin, après l'assemblée, pouvoir en parler en groupe pour discerner ce qui s'est passé à l'entente d'une parole, si l'on veut progresser dans le discernement. Qui peut recevoir ce charisme? Je disais que ce n'est pas donné à tout le monde, mais l'Esprit-Saint, qui est l'auteur de tous les charismes, distribue ses dons à chacun en particulier comme il l'entend, selon le plan de Dieu. Je dis qu'en théorie, tous peuvent recevoir ce charisme du discernement, et bien d'autres charismes encore. L'esprit est libre. Ne voit-on pas, par exemple, le grand prêtre Caïphe, qui sera mêlé à la mort de Jésus, prophétiser lorsqu'il dit « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple que la nation périsse tout entière. » Saint Jean commente cette phrase en écrivant « Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non seulement pour la nation, mais encore pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » Ainsi, en est-il du charisme du discernement? Cette observation nous invite à beaucoup d'humilité, parce que les voies de Dieu sont mystérieuses et déroutantes. Sa sagesse n'est pas la nôtre. Rappelons-nous quand Isaïe disait « Mes voies ne sont pas vos voies. » N'a-t-il pas choisi pour fonder son Église 12 pauvres pécheurs de Galilée, alors qu'il y avait tellement d'esprits brillants à Jérusalem? La grâce vient se greffer sur la nature. Et jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que le discernement acquis, le discernement ordinaire, passe normalement par le canal de certaines qualités humaines de sagesse, d'équilibre, qui accompagnent la grâce. Dans le cas du charisme du discernement, comme il s'agit d'une lumière qui est donnée directement par Dieu, elle peut emprunter tous les chemins, même celui de la bouche des enfants ou de personnes que nous jugerions plus ou moins bien équilibrées. L'esprit est libre et il ne nous appartient pas de lui indiquer par où il doit passer. C'est pourquoi je vous invite à prier et à supplier le Seigneur qu'il vous donne de pouvoir participer à la construction du corps qu'est l'Église et à être toujours apte et attentif à répondre aux désirs de l'Esprit et à vous rappeler que plus on se purifie, plus on se détache, plus on accepte d'avoir un cœur pur, de vérifier à l'intérieur de nous-mêmes les mouvements de nos cœurs, plus on se préparera à bien discerner, à bien exercer les charismes. Et entre autres, plus on se préparera à vivre dans la paix du Christ. Cette paix qui est absolument nécessaire et qui surpasse toute intelligence, cette paix que Dieu donne aux âmes qui s'exercent à la prière, à la méditation des Écritures et à l'oraison, et qui savent remercier Dieu pour toutes choses, des grâces qui remplissent de consolation, comme les épreuves de la vie. Ainsi, le Seigneur va communiquer cette paix, sa paix, si nécessaire. Et cette paix qui, comme une personne, vient de prendre sous sa garde nos pensées et nos cœurs. Et cela facilite l'exercice pour discerner et entendre les paroles au fond de notre cœur et de pouvoir exercer les charismes. En fait, au tout début de la réunion, je vous ai parlé de l'importance de l'organisation du corps du Christ et de ses dons, de le corps que nous formons. D'où l'importance de nous appliquer ensemble à pratiquer l'humilité, la douceur et la patience, et à se supporter les uns les autres dans la charité du Christ. De nous appliquer à conserver l'unité de l'Esprit Saint par ce lien précieux qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que nous avons reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cependant, comme le dit saint Paul aux Éphésiens, chacun de nous a reçu sa part de la grâce divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est lui qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou pasteurs, ou docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ. À ne plus faire qu'un dans la foi et la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Vivant ensemble dans la vérité et dans la charité, nous grandirons de toute manière vers celui qui est la tête, le Christ Jésus, dont le corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de jointures qui le nourrissent et l'actionnent selon le rôle de chaque partie, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même dans la charité. Et l'exercice des charismes, c'est pour construire la foi, l'espérance et la charité, et tous les membres ensemble que nous formons.
Je le dis à mes serviteurs et à mes servantes, qu'elles soient dociles à l'action de l'Esprit-Saint en leur âme, et qu'ils portent un fruit de conversion et de pénitence, afin de sauver la multitude des âmes. Je suis un Dieu patient, bon et généreux envers mes enfants, et je départis mon esprit de puissance, afin que vous alliez de par le monde annoncer le règne de Jésus-Christ Sauveur et opérer signes, miracles et prodiges à mon nom. Que l'esprit de sainteté vous fasse parler, que l'esprit de vérité vous rende libre, et que mon esprit de sagesse habite en vous, pour que vous soyez pour mon peuple lumière, sagesse, foi. force, témoin de mon royaume. Que dans la joie de l'Esprit Saint, vous bénissiez mon nom, que vous me rendiez grâce pour tout le bien que je communique à vos âmes et pour tous mes bienfaits que je répands à mon peuple. Témoignez hautement de mes merveilles, car je suis le Dieu de la vie. Je suis l'espérance de vos cœurs, et je vous donne par la puissance de mon Esprit Saint d'agir à mon nom, d'accomplir signes, miracles et prodiges. Laissez-moi parler à votre cœur, le transformer, le changer, et vous donner cette espérance dans les biens qui ne passent pas. Petit, petite, que ma sagesse vous habite et que le Dieu très saint soit votre force sur cette terre d'exil. Paix et joie en vos cœurs. Parole du Seigneur à ses enfants qu'il aime et qu'il veut constant et persévérant à l'aimer, à le servir et à aimer leur prochain dans la charité fraternelle. Amen. Alléluia.
Grâce, miséricorde et paix dans l'Esprit Saint soient au cœur de mes fils et de mes filles, assemblés pour m'écouter et me prier. Moi, le Seigneur Dieu vivant et présent au milieu de l'assemblée, je le dis à ma fille. J'ai visité ton cœur par ma parole, pour t'éclairer et te fortifier dans la foi. C'est moi, le Seigneur, qui prends soin de mes enfants. J'écoute la prière du petit et je l'exauce. Je suis agissant par ma parole pour manifester ma miséricorde et mon amour. Ma parole passe comme un feu pour purifier et guérir, pour consoler et encourager. Je le dis à ma fille, c'est en ce moment même que je te guéris. Paix en vos cœurs, en vos âmes et en vos esprits. Parole du Seigneur.